Bonjour, on est sur Radio Sommière et on est avec des membres du club de Vonage Astronomie. Alors, du coup, je vais poser la première question. En quoi consiste votre association et comment elle a-t-elle été créée ?
Notre association, elle consiste du coup à expliquer, à faire des observations, des soirées d'observation, des réunions en salle, faire de l'astrophotographie, de l'astrodessin. Le but est de se réunir entre passionnés des étoiles et du cosmos et d'échanger ensemble, de faire plein de choses ensemble et de découvrir un peu plus le ciel et d'observer. Donc l'association, elle a été créée par Mathieu il y a une dizaine d'années et je l'ai reprise récemment, il y a 2 ans. Donc je suis maintenant la nouvelle présidente du club et nous sommes désormais à Langlade. Et avant, elle était sur Codognan.
Ok, du coup, moi je voulais savoir aussi, on trouve qui dans le club et comment on peut devenir membre de l'association ?
Comment peut-on devenir membre ? Bah, il suffit de le vouloir et puis de s'inscrire. Voilà. Alors, on s'inscrit en famille, en individuel. Il suffit d'être intéressé, sans matériel. C'est-à-dire qu'on est ouvert à celui qui veut juste voir et qui n'a pas son matériel. Nous, on en a. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est un investissement qu'on a expliqué. Ça vaut au moins un minimum 500 euros donc, pour voir quelque chose. Donc on a du matériel. Et on ne passe pas notre vie l'œil rivé sur l'oculaire. Donc celui qui veut, il vient, il s'inscrit. Et puis on demande un petit quelque chose pour être membre d'une association. Justement pour ne pas faire ça du plaisir solitaire, mais de faire en groupe, de partager notre expérience. Et de justement que celui qui s'intéresse, il apprenne des choses. Voilà, il profite du matériel dont on a pour se faire plaisir lui aussi. Voilà. Par contre, nous, c'est la nuit.
Quand il arrive quelqu'un de nouveau, sans matériel, il y en a un qui est préposé à s'occuper de la nouvelle personne, du nouveau membre. Donc, en l'occurrence, c'est moi, pour le moment. Donc, je mets mon appareil à disposition pour aider les nouveaux membres et on passe à la soirée pour ça.
Faire ses premiers pas et découvrir justement ce qui est évident, il suffit de se lever la tête.
Et donc, vous parliez tout à l'heure du matériel qui coûtait quand même assez cher. Donc, vous disiez jusqu'à 40 000 euros. Mais du coup, vous vous autofinancez ou c'est...
Il ne faut pas parler de ces appareils très, très haut de gamme. À nos niveaux, on peut aller jusqu'à 2 000, 3 000 euros. Mais ça joue plutôt dans les quelques centaines d'euros, quoi. 200-300 euros jusqu'à 1000 euros, on a du matériel où on peut voir, par exemple, tout le catalogue de Messier, dont vous avez montré tout à l'heure les photos. Donc il y a de quoi faire avec quelques centaines d'euros, sans parler des dizaines de milliers d'euros. C'est pas la peine d'aller dans ces hauteurs.
Je peux rajouter ce qu'a dit Juan, c'est que quelque part, il ne faut surtout pas investir énormément en commençant une activité comme ça, parce qu'on peut être très déçu, comme devenir passionné. D'avoir mis 20 000 euros ou 10 000 euros dans quelque chose et on est déçu, c'est quand même de l'argent qui est perdu. Donc il faut commencer par quelque chose de petit qui permet de voir. Et puis après, si on veut vraiment approfondir ses connaissances, eh ben, on achète du matériel qui coûte déjà beaucoup plus cher. Mais enfin, celui qui achète du matériel à 40 000 euros, c'est qu'il est plus que passionné. Hein. Voilà, à 2 000 euros déjà, on a du très très bon matériel dont il faut prendre grand soin.
Et sinon, cette passion pour l'astronomie, tout ça, elle vous vient d'où ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a lancé sur cette voie ? Ou c'est totalement par vos recherches ? Comment vous êtes venu à aimer tout ça, à être aussi investi ?
Il suffit d'être intéressé aux choses. Et le fait de regarder le ciel, comme le disait Freddy à un moment donné, eh bien, ça peut faire travailler l'esprit. Et puis les circonstances, j'ai une nièce qui avait un petit télescope qui me l'a prêté. Je me suis retrouvé tout seul à regarder un peu le ciel et ça a été une sorte de déclencheur. À la suite de ça, il s'est créé le club dont a parlé Elicia tout à l'heure. Je me suis inscrit sans appareil. Je suis resté quelques mois avec eux. Et puis j'ai acheté mon premier télescope et depuis je perdure et je progresse tout le temps.
Moi, ça a commencé quand j'étais petite avec mon père. Donc, on regardait le ciel le soir en se couchant dans le jardin. Et puis, finalement, il a voulu qu'on aille à la nuit des étoiles qu'organisait l'ancien club d'astronomie, qui s'appelait à l'époque Club d'astronomie de Codognan. Et puis, j'ai observé Saturne, Jupiter, et ça m'a juste passionnée. Et donc, c'est à partir de là que ça a vraiment commencé et que je me suis intéressée, je me suis inscrite dans un club et la passion elle est partie comme ça.
Bah pour moi, c'est encore plus simple. Tout petit, ça m'énervait de voir ce qu'il y a là-haut. Je voulais bien savoir ce que c'était. Pendant 40 ans, je m'en suis pas préoccupé. La retraite arrivée, je me suis dit, je vais m'en occuper. Et voilà, maintenant, je m'en occupe. Et ça rigole plus.
Combien y a-t-il de membres dans votre association ?
Il y a environ une quinzaine de membres, mais ça bouge pas mal parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui partent parce que c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui s'inscrivent et qui pensent qu'ils vont voir les mêmes images au télescope que sur un livre d'astronomie, mais c'est pas le cas. Et ça reste quand même une belle passion. Et donc voilà, on est environ 15 membres.
Qu'est-ce que vous aimez observer ?
Ce que les autres n'arrivent pas à voir. Donc les galaxies éloignées, les objets vraiment du ciel profond, c'est ça qui est le plus difficile à trouver, donc c'est ça qu'on cherche à observer. Voilà, donc c'est beaucoup plus long, beaucoup plus précis. Et une fois qu'on a dépassé les planètes du système solaire, c'est la première chose qu'on regarde. Je pense que quand on a une lunette, le premier objet qu'on va regarder, c'est Saturne. C'est fascinant avec ces disques qu'on voit très bien et on les voit. Hein. Donc c'est quelque chose qui surprend parce qu'on le voit dans les livres et là d'un seul coup c'est devant nos yeux. Après on voit Jupiter, on voit ses couleurs. Ça c'est des choses dans le système solaire qui peuvent être perçues comme Mars, comme Vénus. On voit la calotte glaciaire de Vénus. Ça c'est les premiers pas vraiment on va dire du début qui font qu'on a envie d'aller voir plus loin parce qu'on ne va pas passer notre temps à regarder Vénus qui disparaît une bonne période de l'année, Jupiter, Saturne qu'on voit qu'un petit moment dans l'année également puisque les planètes tournent comme nous et elles sont derrière le Soleil, elles sont hors horizon donc on essaye de voir autre chose et on s'intéresse à justement les galaxies qui nous ressemblent puisque les galaxies on a notre petite place dans la nôtre. On essaie de voir les autres et puis du coup, après, qu'est-ce qu'on a du coup, hein, n'est-ce pas, Alicia on voit des choses, des amas globuleux, des amas gazeux, des amas d'étoiles. Et puis tout doucement, on découvre tout ça. Et voilà, c'est ça qui fait que quelque part, on passe beaucoup, beaucoup de temps dans des nuits bien claires et quelquefois bien froides.
Qu'est-ce que vous avez comme matériel et comment on trouve ce genre de matériel ?
On a des télescopes qui, on l'a dit tout à l'heure, à des petits diamètres qui peuvent coûter 100 euros par exemple. Et puis ça va à un gros de 400 dans le club qui peut coûter 2500 euros neuf. Et on le trouve soit d'occasion sur les sites Le Bon Coin ou spécialisés, ou dans les magasins spécialisés. Il y en a un à Montpellier, ça existe, ou par correspondance. On peut se les procurer, ça se trouve. Hein.
Les premiers éléments, on peut les trouver chez les opticiens, ils en vendent certains. Hein. Donc, par contre, c'est du tout petit matériel de débutant. C'est souvent, c'est pas des télescopes, c'est des lunettes. Hein. Donc, c'est pas cher. Par contre, ce qu'on peut observer est très limité. Et c'est vrai que Planète Découverte, on trouve déjà des choses. Il y a aussi Nature et Découverte, on trouve des télescopes. Par contre, le choix est très limité et il vaut mieux, comme m'a dit Juan, s'adresser à des maisons spécialisées qui vont guider, qui vont nous dire voilà, par rapport à ce qu'on veut faire, les moyens qu'on a, il y a un plus large choix. Mais après, on peut débuter par du matériel d'occasion.
Comment on se repère grâce aux étoiles ?
Pendant le cours, on a bien vu que, Alicia en a parlé, le catalogue de Messier nous permettait, si on s'y attaque, à bien apprendre le ciel. En cherchant tous les objets de Messier, on arrive au final à connaître par cœur toutes les constellations du ciel. Quand on connaît les constellations, on les reconnaît. Et donc ces étoiles, on sait que là c'est la Grande Ourse, on en a parlé tout à l'heure. Là-bas ça va être le Bouvier, Hercule, on les connaît. Et quand il y a un objet à cibler, on sait qu'entre cette étoile et cette étoile, l'objet peut être là, on ne le voit pas à l'œil nu, mais on vise avec notre télescope, on a un laser rouge. Et entre ces deux étoiles, par exemple, si l'objet y est, on le vise et on doit le voir au télescope.
Pour faire ses premiers pas, effectivement, dans le ciel, c'est que des étoiles, on a peut-être du mal. Donc il y a des supports, il y a des livres qui permettent de découvrir les galaxies, les signes, les zodiacs qui sont qui passent toujours au même endroit dans le ciel. C'est pour ça qu'on les appelle les zodiacs. Il y en a 12 au départ, il y en a beaucoup plus maintenant. De constellations qui existent, puisqu'on est dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, on ne voit pas la même chose. Donc déjà, nous, on est frustrés parce qu'on n'en voit que la moitié. Il faudrait qu'on aille de l'autre côté de la Terre pour pouvoir voir le reste. Et quelque part, les livres nous aident à faire nos premiers pas. Et le premier pas pour se repérer dans le ciel, c'est effectivement les constellations. Des constellations qui sont des imaginations de l'être humain qui a trouvé que ça représentait des différents animaux, des personnages comme le Sagittaire, la Vierge ou le Lion, qui apparaissent en fonction des saisons. Donc on ne voit pas tout en même temps, donc en hiver on voit certaines constellations, d'autres en été, d'autres en automne. Et c'est les premiers pas qui permettent tout doucement, parce qu'on n'apprendra pas tout ça en une nuit, tout doucement on apprend le ciel, et puis après, bah, comme l'a dit Juan, en fonction des constellations qu'on a bien repérées, bah, on va retrouver, rechercher les petits détails qui font que le ciel profond nous intéressera dans le deuxième pas.
Comment vous vous adaptez par rapport à la météo? Comment vous faites pour connaître la météo à l'avance?
D'abord, on mettrait les météorologues en prison, parce qu'à chaque fois, ils nous racontent des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Quand ils disent qu'il fait beau, pour nous, il ne fait pas beau. Nous, il fait beau, c'est quand il n'y a pas de vent, pas de nuages et un ciel, comment dirais-je, sans humidité. Alors, il existe des sites pour pouvoir appréhender la météo d'une manière beaucoup plus précise. Il y a la météo agricole, par exemple, qui donne des informations très précises sur des lieux très localisés. Après, il y a météo ciel. Donc météo ciel qui est aussi ciblé sur la région, donc c'est pas la région, vous dites c'est telle ville, mettons vous mettez Sommières et vous aurez le ciel de Sommières heure par heure, hein, puisque ça va jusque heure par heure, ça reste, comment dirais-je, assez imprécis sur la demi-heure, c'est-à-dire qu'ils vous disent qu'à 10h ce sera clair, ce sera peut-être pas 10h, ce sera peut-être 10h15, 10h30, mais ça vous donne une autre précision que celle que vous regardez éventuellement à la télévision aux 20h. Hein. Ensuite, on a sur notre propre site du club, puisqu'on a un site internet, il y a une météo particulière qui est vraiment dédiée à l'astronomie. Et là, il y a vraiment, vous avez des choses un peu différentes, puisque vous avez les nuages bas, les nuages médiums et les nuages de haute altitude, ainsi que les courants de haute altitude qui peuvent perturber justement l'observation, puisque nous, ce qui nous perturbe le plus, c'est les mouvements d'air, avec les taux d'humidité, des choses comme ça, et ça vous permet même de dire sur ce site les moments où vous avez la lune, pas la lune, parce que nous, derrière le côté météorologique, il ne nous faut pas de lune. Quand il y a la lune, il n'y a rien à voir, à part la lune, parce que la lune, c'est un gros phare qui nous éclaire le ciel, et du coup, il nous cache tout le reste. Donc, on a plusieurs paramètres, l'humidité, le vent, la chaleur et la lumière. Donc essentiellement la Lune pour nous, qui est quelque chose de naturel, puis le reste, bah, c'est la pollution lumineuse dont on parle tous en ce moment.
Est-ce qu'il y a des périodes où vous êtes plus actif pour observer les étoiles?
Il y a des périodes où on est plus ou moins actif. Après, comme l'a dit Freddy tout à l'heure, le ciel d'hiver est assez intéressant pour l'observer parce qu'il y a beaucoup plus d'objets. Il y a notamment la constellation d'Orion qui est très observable, très bien observable, avec notamment sa nébuleuse et plein d'autres objets autour. Après, toutes les périodes sont intéressantes dans le sens où on a différents hémisphères en fonction du moment de l'année. Donc on peut très bien observer le ciel d'été, le ciel d'hiver. Mais les périodes les plus favorables, c'est quand même l'hiver où c'est plus agréable. Par contre, c'est plus défavorable pour nous parce qu'on a froid, mais bon, en faisant attention, normalement c'est le mieux.
Qu'est-ce qui fait un bon spot d'observation ?
Bon spot d'observation, c'est avant tout s'éloigner des lumières des villes, des villages et surtout des villes. Alors on cherche dans nos endroits, là, nos secteurs, Sommières, Vergèze, etc. On monte un peu plus vers le nord pour y a moins de villages et il y a des collines où on peut se camoufler des lumières de Nîmes. Alors c'est pas parfait parce que pour avoir un bon spot à 100%, il faut monter en Cévennes. On appelle en Cévennes un ciel noir. Mais nous, bon, mais on a des solutions de demi-mesure qui sont pas mal, qui nous permettent de sortir le vendredi ou le samedi, selon le temps, et de rentrer chez nous. Voilà, c'est pas trop loin. Voilà. C'est pas des spots parfaits, mais c'est des demi-mesures qui nous permettent d'assouvir notre passion, quoi.
Et du coup, le ciel des Cévennes que Juan a évoqué a été classé ciel noir. Donc c'est un des meilleurs ciels pour observer les étoiles bien. Et on peut même voir la Voie lactée. Donc c'est vraiment très très clair avec très peu de pollution lumineuse.
Alors la déclaration ciel noir, ça veut dire que les villages alentours s'engagent à éteindre leur éclairage la nuit pour favoriser les observations du ciel. Donc c'est vraiment un engagement du territoire. Et il y en a deux en France. Il y avait d'abord le Pic du Midi pour l'observateur du Pic du Midi. Et c'est disons là, c'est la Lozère qui a eu le deuxième, les Côtes Noires, qui a eu le deuxième label. Donc voilà, on peut en être fier.
Quelle est la différence entre comète, astéroïde et étoile filante ?
Alors un astéroïde c'est une pierre, hein, c'est souvent un bloc de pierre qui circule. Alors il y a deux couronnes d'astéroïdes autour de, dans notre système solaire et qui s'échappent de ces couronnes et qui viennent traverser, c'est les astéroïdes. Ensuite il y a les comètes qui c'est complètement différent, ça s'apparente plus à une planète du système solaire mais qui a une révolution extrêmement longue puisque celle que l'on voit en ce moment elle a 7500 ans de révolution. Donc si on la rate demain, il faudra attendre 7500 ans pour la revoir. Mais elle tourne toujours autour du Soleil. Ça, c'est un corps qui a sa propre révolution, qui n'est pas justement sur le même plan que les planètes, parce que les planètes tournent autour du Soleil sur un plan, sur le même plan quasiment, hein, et elles ont leur vie propre. Donc ça, ce sont les comètes. Ensuite, ce qu'on appelle nous les étoiles filantes, ce sont des petits grains de sable qui peuvent faire moins d'un millimètre, qui pénètrent dans l'atmosphère. Donc là, c'est différent, c'est la force gravitationnelle de la Terre, le magnétisme de la Terre qui les attire dans l'atmosphère et elles se brûlent dans l'atmosphère par la vitesse. Un peu comme quand les astronautes retournent sur Terre dans le temps, quand on regardait Apollo, que le bouclier, ça fumait, ça brillait. Elles n'ont pas le bouclier, donc elles se désagrègent. Et après, on a quelquefois des morceaux plus importants qui arrivent à pénétrer, qui font plus de dégâts. Hein. Là, on appelle ça des météorites. Hein. Donc là, c'est parce que c'est plus un millimètre de diamètre, mais ça peut avoir plusieurs tonnes. Donc là, ça se désagrège aussi, mais arrive au sol encore des blocs suffisants par la vitesse pour détruire des habitations, des lieux ou mettre le feu dans les forêts. Et c'est l'atmosphère terrestre qui nous protège majoritairement de toutes ces choses-là. En partie en les déviant, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas pénétrer comme justement si vous êtes intéressé à comment un engin retourne sur Terre, il y a un angle très précis qui est de 3 ou 4 degrés, en dessous il rebondit, au-dessus il se désagrège. Donc c'est cet angle-là qui permet aux météorites, aux étoiles filantes de pénétrer dans l'atmosphère, de se détruire parce qu'elles y rentrent, au-delà elles sont déviées. Voilà, il n'y a que ça, quoi. Donc c'est parce qu'elles sont juste un point. Donc c'est pour ça que quand on les regarde, quand on s'intéresse un peu à ce phénomène, on se dit qu'il y a beaucoup de chances qu'il se passe ça, parce qu'il y a tellement de paramètres qui font que ça se produirait peut-être jamais. Voilà, donc moi je finirai en disant que c'est heureusement qu'on a une atmosphère qui nous préserve de 95% des risques qui nous arrivent de là-haut.
Est-ce qu'il existe des rassemblements de passionnés d'astronomie ?
Oui, je l'évoquais tout à l'heure, je viens du site des Nuits du Cosse Noir, trois Nuits du Cosse Noir qui sont organisées par le club d'astronomie de Montpellier et deux autres clubs plus petits. Et ils se trouvent sur la région du RIS, le ciel noir qui vient d'être classé internationalement. RIS, ça veut dire région internationale ciel étoilé. Et il n'y en a que 13 dans le monde et en France, il y en a deux. On a cette chance. Et elles sont agréées par un organisme privé américain qui sont venus pendant 2 ans sur le secteur de l'Égual et qui ont donné cet agrément. Et c'est prisé maintenant. Il y a des gens qui viennent de Hollande, en fait, des étrangers. Nous, on a la chance d'y être à 2 heures de voiture. Et là, j'en viens. Donc c'est un rassemblement d'astronomes. C'est à cet endroit que j'ai vu les gros télescopes dont je parlais tout à l'heure, qui coûtent très cher, là, quoi. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus, on y va avec des télescopes comme celui d'Elysia ou plus petit quoi aussi. Hein. Donc on a la chance d'avoir à côté un rassemblement comme ça, il y en a quelques-uns en France, 5 ou 6, mais il peut y en avoir dans l'Est, dans le Nord, dans les Alpes et plus près de Bordeaux, mais nous on en a un ici chaque année. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du projet SpaceX avec la ceinture de satellites ?
Elon Musk, il fait parler beaucoup de gens, donc en réalité, c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque c'est mettre dans le ciel des objets qui vont circuler. Ces objets sont il y a plusieurs centaines de satellites en réalité qui sont en évolution autour de la Terre et qui favoriseraient tous les circuits Internet. Donc on aurait plus grande capacité Internet et surtout à recevoir des informations, à faire véhiculer des informations beaucoup plus vite. On ne peut pas empêcher le progrès. Quelque part, je trouve que Internet aujourd'hui, si ça ne fonctionnait pas, on on reviendrait un peu en arrière. Nous, on est là une génération qui n'avons pas connu Internet, donc ça ne nous peserait peut-être pas beaucoup. Mais on se rendrait compte rapidement qu'on se sert de l'ordinateur, qu'on va chercher des infos et qu'on ne les aurait pas autrement que par l'universaliste, qui est un peu long à, quand on est encore à la maison, parce qu'on les a tous jetés. C'est une avancée technologique. Par contre, nous, pour les observations, pour le moment, on n'est pas gêné parce qu'on ne les a pas vus, sauf quand le train de satellites passe et il y a une dizaine de satellites les uns derrière les autres, c'est au moment du décollage, après quand ils se mettent en orbite, où c'est perturbant. Mais enfin, après, c'est un truc à regarder aussi, hein, de la maison, on les voit passer. Alors Elon Musk, il s'est engagé à ce que les satellites, enfin, c'est dans son programme, que les satellites s'orienteront pour ne jamais offrir de face brillante au soleil, et donc ils ne brilleront pas dans le ciel. Donc ce sera une tache noire qui se déplacera, alors c'est minuscule, de la vue de la Terre. Dans un gros télescope qui grossit bien, on verra peut-être passer un truc qui va venir obscurcir quelque chose, un court instant. Je pense que c'est les astrophysiciens qui vont être les plus ennuyés, pas les astrophysiciens, les astrophotographes qui vont être perturbés, parce qu'ils ont déjà les satellites qui brillent, qui passent, ils auront des satellites noirs qui passeront, donc ça, c'est peut-être eux sur les photos qui vont voir des choses, mais... D'après Elon Musk, nous, les astronomes, dans nos télescopes, nous ne serons pas dérangés. On attend pour voir.
Et dans la même idée, qu'est-ce que vous pensez du tourisme spatial ?
Je pense que le tourisme spatial, à la base, ça pourrait être une bonne idée, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, où on en est à essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de pollution, tout ça, ça va ajouter énormément en pollution. Ça va être réservé dans un premier temps qu'aux personnes qui du coup seront très argentées. Ça va donc faire une différenciation assez importante et qui n'est pas forcément très juste. Et je pense que permettre aux personnes d'aller dans l'espace pour les personnes qui sont pas amatrices mais professionnelles, c'est très intéressant parce que ça peut permettre d'évoluer, d'en connaître plus, mais rendre ça public. Je sais pas si ça peut être une bonne idée pour le moment.
Moi, j'ai une vision un peu plus optimiste, c'est-à-dire que quelque part, quand j'ai tout acheté parce que j'ai plein d'argent, pourquoi pas m'offrir un petit voyage comme ça. Par contre, j'appuierai beaucoup sur le fait que d'envoyer plus de monde dans l'espace, ça va faire avancer beaucoup la technologie de ceux qui développent justement ces moyens de propulsion et ces fusées. Aujourd'hui, il y a d'autres recherches sur justement une propulsion qui n'a rien à voir avec l'énergie, mais qui serait plutôt du répulsif. Hein. Alors, c'en est qu'à l'étude sur papier. Mais je pense que c'est justement en essayant, en faisant envoyer plus de personnes, de choses comme ça, parce que c'est quand même envoyer des gens, c'est un peu différent que d'envoyer du matériel, ça va faire avancer la recherche, et puis pourquoi pas demain réussir à voir des choses qui aujourd'hui nous échappent encore et qu'on ne comprend pas.
Et quelle est la chose la plus impressionnante que vous avez observée dans l'espace, dans l'univers ?
Au moment, rien ne nous a impressionné parce qu'on attend toujours une supernova qui n'a pas eu lieu. Il y en a une tous les 100 ans, donc on va attendre un peu. Après, l'objet qui est le plus plaisant à regarder, c'est Saturne aujourd'hui. Hein, c'est le plus bel objet du système solaire. Après, c'est découvrir les galaxies qui nous ressemblent qui nous font remettre un peu à notre niveau minuscule sur Terre où on a des fois un peu les chevilles qui enflent, et quand on regarde ça, on se dit qu'on n'est vraiment pas grand chose et que c'est un coup de bol qu'on soit encore là, hein. Et préservons-nous un peu la planète.
Quand on dit quelque chose dans l'espace, on emploie toujours le terme d'objet. Un objet, ça peut être la Lune, le Soleil, une galaxie lointaine comme on a vu tout à l'heure, un amas comme toutes ces images qu'on a vues du catalogue de Messier. Nous, on dit que c'est des objets, tel objet, mais ils sont divers et variés. Voilà, on parle d'objets.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce fut très intéressant.
Une question au moins, c'est est-ce qu'on vous a intéressé ? Est-ce que ça n'a pas été trop long ? Ou vous auriez peut-être voulu apprendre un peu plus ? Voir si on peut faire quelque chose une autre fois ?
Oui, ce sera avec plaisir d'avoir une nouvelle entrevue, si je peux dire. Mais ça ne pouvait être qu'intéressant en fait. Hein. Mais donc, c'est super, merci.
Merci à vous de nous avoir reçus. J'étais contente de pouvoir vous transmettre un peu mon savoir, en espérant que c'était pas trop ou pas assez. Enfin, j'espère que c'était très bien et voilà, je vous remercie. Et j'aimerais rajouter que si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus ou pour observer les planètes ou les galaxies, tout ça, le club organise la nuit des étoiles le vendredi 7 août au stade des Lozières de l'Anglade à 20h30. Et donc c'est tout public, c'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment un rendez-vous pour ouvert à tous qui est très intéressant. La réception des personnes se fait à 20h30 pour montrer un peu les télescopes et leur fonctionnement et le début des observations se fait à 21h.
D'accord, merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.